Aujourd'hui, c'est cette étude qui fait beaucoup parler. Cette étude allemande qui tente à prouver que le baclofen serait très efficace pour traiter la dépendance à l'alcool. Présenté comme un médicament miracle, il permettrait de stopper l'addiction à l'alcool très rapidement. Alors, est-ce un médicament miracle? On posera la question dans un instant au docteur Philippe Battel, qui est addictologue et directeur médical de la clinique Montevideo de Boulogne. Mais auparavant, Anne Le Gall, que dit cette étude allemande?
Alors, juste peut-être quelques éléments avant de présenter l'étude. Donc, le baclofen, on le rappelle, c'est un médicament utilisé depuis 1975 pour traiter les contractures musculaires. Sa popularité a explosé en 2008 avec la publication du livre Le Dernier Verre du cardiologue Olivier Amezen, qui est décédé depuis, qui avait auto-expérimenté le baclofen sur lui-même et qui avait conclu à son utilité. Et donc c'est dans ce contexte d'attente, le baclofen est aujourd'hui autorisé de façon provisoire en attendant le résultat de deux études cliniques en France. Et c'est dans ce contexte que tombe cette étude allemande, une étude qui semble être positive. Pour cette étude, les chercheurs allemands ont divisé les volontaires alcooliques en deux groupes. Et pendant trois mois, 28 participants ont reçu du baclofen à raison de 180 mg par jour. 28 autres prenaient un placebo. Durant ces trois mois, 43% des participants ayant pris du placebo ont réussi à se passer totalement d'alcool, contre seulement 14,3% pour le groupe placebo. Donc le médicament a plutôt été bien toléré, puisque seuls deux patients du groupe baclofen ont arrêté le traitement. Les résultats semblent donc positifs, mais un gros bémol, évidemment, l'étude ne porte que sur deux petits échantillons de 28 personnes. Je crois que je me suis
On n'a rien compris.
Non, c'est ça. En fait, je crois que j'ai dit placebo.
C'est
43% dans le groupe des participants du groupe baclofen.
Contre 14% de l'autre
placebo.
Côté.
Exactement. Voilà, on remet les choses en place.
Alors, docteur Philippe Battel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1.
Vous êtes. Anne Le Gall a fait une présentation absolument parfaite. Elle s'est juste gourée sur le baclofen. Pour le reste, c'était absolument parfait.
Voilà. À part les chiffres, c'était parfait. Vous êtes addictologue, je le rappelle. On a le sentiment quand même, quand on écoute ces chiffres, c'est-à-dire en gros 1 sur 2 qui prend du baclofen, qui réussit à se passer l'alcool, pour faire simple. On a le sentiment que c'est un peu un produit miracle, au fond.
Ben, ce n'est pas un produit miracle, non. Il nous a été présenté par un groupe de pression qui était absolument convaincu qu'il s'agissait d'un produit miracle, que les gens comme moi qui doutaient naturellement, parce que je suis scientifique, chercheur, et que je préfère continuer à douter et apporter des preuves que d'emblée expliquer à des milliers de gens qui sont en grande difficulté qu'il y a une molécule miracle qui va les sortir d'une alcoodépendance. Là, aujourd'hui, on est dans la vérité, c'est-à-dire on est dans une étude qui a été faite dans les règles de l'art, et qui montre quoi? Qu'on a des résultats qui sont tout à fait semblables aux molécules qui sont déjà sur le marché, qui s'appellent la camprosate, qui s'appellent la naltrexone. Je précise que moi, j'ai des liens d'intérêt avec l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques, y compris ceux produisent le baclofen, et que longtemps, on a essayé de mettre en doute la parole des experts sur d'éventuels conflits d'intérêts. Là, on est dans une étude scientifique de bon niveau et qui montre que oui, il y a un effet. Non, il n'est pas miraculeux. Et on attend les essais français pour en savoir plus.
Ce que vous dites, en fait, c'est que le baclofen est exactement au niveau des autres médicaments qui existent, si je comprends bien.
Ah, c'est tout à fait comparable. Jusqu'à présent, on nous présentait des résultats dans lesquels on nous disait que 80% des patients étaient sortis d'affaires, qu'ils allaient très bien. On oubliait de dire que la moitié d'entre eux étaient perdus de vue au bout de trois mois. Et y a d'ailleurs une petite irrégularité scientifique dans l'article qui est présenté. À un moment, ils disent, finalement, il y a 60% des patients qui ont tiré bénéfices quand ils ont été trop élevés, ils oublient d'exclure les perdus de vue, ce qu'il faut toujours faire, et ce qui est la règle de l'art en matière d'évaluation scientifique d'un médicament.
Ouais. Docteur Battel, juste, je suis pas un scientifique du tout, mais est-ce qu'une étude sur 28 participants, c'est crédible?
Oui, enfin, c'est 2 fois 28. Hein. Ouais. Alors, on peut critiquer ça. Hein. Il y a deux façons de faire. On peut dire, si on a montré un effet sur 28, probablement, on montrera un effet encore plus important sur un grand nombre de patients. Et d'autre part, on peut dire, sur 28, à peine 3 mois, c'est un peu faible. Non, je pense que cette étude ne permettrait pas, demain, si elle était présentée à l'Agence du médicament, d'emporter la conviction d'experts sur la balance bénéfice-risque de ce médicament, parce que, en effet, le chiffre est trop court. Le dernier médicament qui est passé devant l'agence, il faut comprendre que le dossier qui a été apporté, c'est 800 patients, et pas simplement sur un centre, mais sur plusieurs centres européens. Donc là, c'est un centre français, un centre allemand sur à peine 56 patients. En effet, ça n'a pas un poids absolument majeur, mais c'est intéressant et il faut continuer à évaluer.
L'avis de nos experts, professeur Françoise Forêt.
Oui, je reviens sur les 28 patients. Ce n'est pas parce qu'on a un petit nombre de patients que l'étude n'est pas valide. Au contraire, si on trouve une différence statistiquement significative entre les deux groupes. Et au contraire, quand il faut vraiment avoir 3000, 6000 ou 10000 patients, on se dit que la différence statistique a peut-être moins de valeur clinique. Donc il faut regarder effectivement attentivement cette étude, voir s'il n'y a pas des biais. Mais le double aveugle contre placebo protège en général des biais.
Docteur Martine Pérez.
Oui, moi je pense que le baclofène, ce n'est pas une molécule miracle, mais ça élargit la palette des médicaments destinés à lutter contre la dépendance à l'alcool, qui est un problème majeur en France et très difficile à régler. Et je pense qu'ensuite, Olivier Amezen, qui malheureusement est décédé aujourd'hui et qui a créé ce concept de baclofène et qui a imaginé le traitement par le baclofène, a aussi développé ce concept que c'est plus une abstinence totale qu'on propose aux personnes qui sont en situation difficile avec l'alcool, c'est une restriction de consommation, une réduction de la consommation. Et c'est un nouveau concept parce que quand vous proposez à quelqu'un qui boit beaucoup d'arrêter brutalement zéro alcool, c'est quasiment infaisable. Aujourd'hui, on a d'ailleurs plusieurs médicaments qui permettent de dire aux gens, écoutez, on va vous aider à diminuer votre consommation. Et en diminuant la consommation, on arrive à améliorer beaucoup de critères sanitaires.
Docteur Jean-Michel Cohen.
Moi, je me pose une double question, Philippe Battel. La première question, c'est qu'il y a quelque temps, on a parlé du baclofène en disant qu'il pouvait agir à forte dose sur les troubles du comportement alimentaire. Et donc, je m'interroge sur ses effets. Et la deuxième question, c'est dans quelle classe je vais catégoriser ce médicament. Est-ce que c'est un médicament qui a une action psychologique, donc il agit sur les comportements d'une façon générale, donc tous les comportements, ou est-ce que c'est un médicament qui va être spécifiquement dédié à l'alcoodépendance ?
D'un mot, docteur Battel ?
Oui, très bien. J'essaie de répondre aux deux questions. Sur la première, sur les troubles du comportement alimentaire, on a des données qui sont extrêmement contradictoires. On voit des patients sous baclofène qui deviennent anorexiques, d'autres qui, au contraire, deviennent boulimiques. Et je pense qu'on a, vraiment pas de quoi tirer une conclusion aujourd'hui sur le sujet. Et sur la deuxième question, moi, je répondrai de manière relativement claire. Je pense, en effet, qu'il y a dans ce médicament une action qui est une action psychotrope, ce qui n'est pas le cas des autres médicaments d'aide à l'alcool. Il y a une action psychotrope qui est anxiolytique que tous les patients et de défonce, que tous les patients décrivent, Donc, on est dans une molécule assez particulière. Je pense qu'il peut être, par son action GABAergique, pris comme un psychotrope et il va rester probablement dans une classe, s'il arrive jusqu'à l'AMM, il sera dans une classe d'aide au maintien de l'abstinence ou de la réduction de la consommation d'alcool.
Merci docteur Philippe Battel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes addictologue et directeur médical de la clinique Montevideo de Boulogne. Dans un instant, émission spéciale